L'élection présidentielle se tiendra au Brésil dans 6 mois. Le Parti des travailleurs, le PT, espère revenir au pouvoir à cette occasion grâce à son charismatique dirigeant Lula. Il veut prendre ainsi sa revanche sur la destitution de Dilma Rousseff de la présidence en 2016, qui a mis fin à 13 années de pouvoir du Parti des travailleurs, ce que la gauche brésilienne a qualifié de coup d'État institutionnel. Il n'est pas du tout certain que Lula, président durant 2 mandats déjà, de 2003 à 2010, ait le droit de se présenter. Il fait l'objet d'une condamnation à 12 ans de prison pour corruption. Mais il n'est pas le seul homme politique brésilien empêtré dans ce type de scandale, loin de là. La corruption est même une pratique assez courante qui lie directement la bourgeoisie brésilienne aux dirigeants politiques qui défendent ses intérêts. La révélation des multiples circuits d'argent mêlant politiciens, compagnies pétrolières nationales Petrobras et entreprises du BTP a ébranlé le système politique brésilien. Le versement de 100 millions d'euros au Parti des travailleurs, selon les aveux de Marcelo Odebrecht, n'est peut-être pas étranger au fait que son groupe de travaux publics a multiplié son chiffre d'affaires par 6 pour atteindre des dizaines de milliards de dollars sous les gouvernements du PT. Cette famille capitaliste a nourri bien des hommes de pouvoir au Brésil, dans toute l'Amérique latine et jusqu'en Afrique, et s'est nourrie en retour de l'argent public. Marcelo Odebrecht a été condamné à 19 ans de prison, non pas pour avoir exploité ses salariés, évidemment, mais pour avoir corrompu des politiciens. Pour faire sortir leur PDG de prison, au bout de 2 ans et demi seulement, des dizaines de hauts cadres d'Odebrecht ont donné aux juges des noms de politiciens brésiliens. Ils en ont dénoncé plus de 400, appartenant à 26 partis, dont 76 parlementaires fédéraux et 12 gouverneurs d'État sur les 26 que compte le pays. Parmi eux, il y a 5 ex-présidents, dont Lula et Dilma Rousseff, dont on a parlé, plus le président actuel, Michel Temer. On comprend bien ceux qui sont scandalisés par le spectacle d'un parlement de corrompus qui vote la destitution de Dilma Rousseff pour défaut de sincérité de la présentation des comptes publics. Parmi les 81 sénateurs brésiliens, dont les 3/4 ont voté sa destitution en 2016, 45 sont sous le coup de poursuites. En fait, les alliés du PT se sont retournés contre lui, espérant tirer profit de cette crise politique. Ainsi, Eduardo Cunha, vieux politicien ayant commencé sa carrière en allié de la dictature militaire et l'ayant poursuivi sous la bannière de différents partis, de même qu'en tant que prédicateur évangéliste, est un corrompu notoire, cité dans les Panama Papers. Ce qui n'a pas empêché le PT de s'allier avec lui et son parti. Cunha est devenu président de la Chambre en 2015. Pendant des mois, Lula et Dilma Rousseff ont fait taire les accusations de corruption contre lui dans l'espoir qu'il ne déclencherait pas la procédure de destitution. Cunha a malgré tout été mis en accusation et il a déclenché la destitution de Dilma Rousseff. Mais il a été lui aussi destitué de son poste avant elle. Il faut dire qu'une douzaine de procédures judiciaires le visent, entre autres pour avoir entravé l'enquête de corruption autour de Petrobras et empoché illégalement au moins 40 millions de dollars, dont 5 millions cachés sur des comptes en Suisse et une autre partie blanchie dans son réseau d'églises évangélistes. Michel Temer, lui, a été 2 fois vice-président de Dilma Rousseff. Il lui a succédé depuis 1 an et demi, excusez-moi. Temer est suspecté de, je cite, « participation à une organisation criminelle, de corruption passive et d'obstruction à la justice ». Rien que cela. Occuper la présidence l'a opportunément mis à l'abri des poursuites. Dans cette ambiance, la récente condamnation de Lula n'est pas une question de justice. C'est aussi un moyen de l'écarter du pouvoir alors qu'il bénéficie d'une popularité particulièrement parmi les pauvres, que ses rivaux de partis traditionnels de la bourgeoisie brésilienne ne possèdent certainement pas. Dans ce pays de 204 millions d'habitants, où les inégalités sociales sont considérables, le Parti des travailleurs a incarné pendant plusieurs décennies une forme d'espoir pour les classes populaires. Et Lula a été le premier dirigeant du Brésil à être issu du peuple. La bourgeoisie et ses coteries politiques traditionnelles n'ont jamais vraiment digéré qu'un ouvrier métallurgiste accède au pouvoir et se maintienne à la présidence pendant 8 ans, même si sa politique n'a pas du tout remis en cause l'ordre social injuste. Le Parti des travailleurs s'est usé au pouvoir. Il a déçu beaucoup de ceux qui comptaient sur lui pour changer le sort des ouvriers. Dilma Rousseff, qui a succédé à Lula à la présidence, au nom du PT, en a été éjectée par des manœuvres politiciennes sans que les travailleurs ne réagissent vraiment. Mais au-delà des péripéties actuelles de la vie politique brésilienne, nous voulons d'abord parcourir les 5 siècles écoulés depuis la découverte de ce pays par les Européens, des révoltes d'esclaves jusqu'aux grandes luttes ouvrières qui ont permis, il y a une quarantaine d'années, d'en finir avec la dictature. Et sur ce, je passe la parole au camarade Stéphane Rodin.
Alors, quand les 12 navires de Pedro Alvarez Cabral découvrent les terres du Brésil en l'an 1500, leur appartenance à la couronne portugaise a déjà été décidée 6 ans auparavant par le traité de Tordesillas, qui partageait le monde entre les 2 puissances coloniales de l'époque, l'Espagne et le Portugal, qui s'arrogeait la domination de l'Atlantique Sud. Le Brésil faisait son entrée dans l'histoire comme colonie européenne, ce qui marque son développement jusqu'à nos jours. Le bois de braise, pas au Brésil, servant à fabriquer des teintures rouges pour l'industrie drapière, donne son nom à la colonie. Cette matière première est rapidement exploitée et exportée vers l'Europe. Elle sera suivie de bien d'autres. L'exportation de matières premières et de produits de l'agriculture a façonné l'économie et le peuplement du Brésil jusqu'à nos jours. Elle l'a également lié pendant 4 siècles à la bourgeoisie européenne en pleine ascension, qui a abondamment profité des richesses d'Amérique et du travail de ceux qui les produisaient. La colonisation européenne au Brésil a tout d'abord été une catastrophe pour ses habitants, que les Européens ont appelés Indiens. Estimée à 2,5 millions de personnes en 1500, cette population est fortement réduite par les épidémies, introduites involontairement, et l'esclavage, propagé lui très volontairement. En Amazonie, les Indiens avaient depuis longtemps développé la culture de l'ananas, de la papaye, de l'arachide et surtout du manioc. Et d'autres régions américaines, ils avaient appris celle du maïs, des haricots noirs, des patates douces, de la citrouille, du tabac et du coton. Alors après avoir utilisé les Indiens de la côte pour exporter le bois de Brésil, les Portugais vont exploiter les guerres entre tribus afin de se procurer des esclaves pour les premières plantations de canne à sucre, une plante importée, et accessoirement celle de tabac. Le besoin d'esclaves de cette économie de plantation est tel qu'au début du XVIe siècle, 6 moulins à sucre de San Vicente, à côté de São Paulo, dans le sud, sont actionnés par 3000 esclaves. C'est l'Afrique qui fournit cette main-d'œuvre à partir de 1538. Au siècle suivant, 562 000 esclaves africains sont débarqués au Brésil, soit 42% de tous ceux qui sont déportés vers l'ensemble du continent américain. En 1700, les 2/3 des habitants de la zone colonisée du Brésil sont des esclaves. Et en tout, jusqu'au XIXe siècle, on estime à plus de 4 millions le nombre d'Africains déportés au Brésil. L'économie brésilienne est alors intégrée en partie dans le commerce triangulaire de l'Atlantique, qui enrichit tout d'abord les marchands hollandais, puis de plus en plus la bourgeoisie montante d'Angleterre et de France. Mais il existe aussi une traite négrière spécifique aux colonies portugaises. L'Angola, en Afrique, fournit des esclaves en échange des produits brésiliens, tabac et eau de vie, la cachaça, qui séduisent les trafiquants d'esclaves africains autant que les toiles, les métaux et les armes à feu en provenance d'Europe. Au Brésil, le sucre devient une véritable industrie, depuis les plantations de canne jusqu'à la production de sucre, mélasse et alcool. Vers 1650, les centaines d'unités de production sucrière utilisent tellement de bois pour la cuisson du jus de canne que des gouverneurs de la colonie s'alarment de la disparition de la forêt littorale La déforestation du Brésil par la soif du profit a commencé. Elle est toujours en cours. Les esclaves ne subissent pas passivement leur exploitation féroce. Beaucoup se révoltent et s'enfuient, créant des villages de noirs marrons, les Quilombos. Le plus célèbre est celui de Palmarès, créé par une quarantaine d'esclaves qui ont fui Recife, la première capitale de la colonie et centre de l'économie sucrière avec Salvador de Bahia, dans le nord-est. Résistant pendant 100 ans aux expéditions militaires destinées à le détruire, organisant même des raids de rétorsion contre les plantations, tout au long du XVIIe siècle, Palmarès attire des esclaves, des métis, des indiens et même des blancs pauvres dont le sort n'était pas très enviable dans une colonie portugaise dominée par les grands propriétaires terriens. À son apogée, le Quilombo de Palmarès compte 11 villages et une capitale de 8000 habitants. L'anniversaire de la mort de son dernier chef, Zumbi, est encore célébré chaque année le 20 novembre, jour de la conscience noire. Dans des régions reculées, certains Quilombos ont même perduré jusqu'à notre époque, peuplés de descendants d'esclaves tout juste tolérés comme squatteurs et qui n'ont eu droit que très récemment à la propriété des terres sur laquelle leurs ancêtres s'étaient installés pour vivre libres. Au XVIIIe siècle, la découverte d'or et de pierres précieuses à l'intérieur des terres bouleverse à nouveau la région. La ruée vers l'or est massive. En 60 ans, 1,5 million d'hommes, 1/5 de la population portugaise, émigrent au Brésil. Des régions entières du Portugal se vident de leur population masculine, désorganisant la vie locale. Dans la colonie, une nouvelle région se forme, aussi vaste que la France, nommée fort à propos Minas Gerais, mine générale. Elle se peuple pour moitié de colons et pour moitié d'esclaves. Des villes au nom évocateur de Ouro Preto, or noir, ou Diamantina, voient le jour. Le centre de gravité du Brésil bascule. En un siècle, le nord-est passe des 3/4 à 1/3 seulement de la population brésilienne. Au sud, la région de São Paulo et de Rio de Janeiro devient la base arrière du Minas Gerais. Les villes de la côte se développent, fournissant aux chercheurs d'or nourriture, animaux de transport et équipements. En 1763, Rio devient la capitale. Le Brésil est alors considéré comme la perle de l'empire colonial portugais. L'héritier de la couronne prend symboliquement le titre de « prince du Brésil » en 1745. Mais la monarchie portugaise dépense en achats aux bourgeoisies d'Europe du Nord une bonne partie de l'or qu'elle tire du Brésil. Quand l'or et les diamants du Minas Gerais s'épuisent après un siècle d'exploitation, ni le Brésil colonial, ni la métropole portugaise ne se sont enrichis véritablement et ni surtout développés. En 1800, 85% du sucre et du coton brésilien qui arrivent au Portugal, dont l'économie n'a que peu besoin, sont réexportés, surtout vers la Grande-Bretagne. La monarchie portugaise prélève le quinto, 1/5 de ce que rapportent les mines. Cela engendre contrebande et mécontentement des blancs nés au Brésil, qui s'estiment lésés par la métropole. D'autant plus qu'à part les sucreries, où la canne doit être traitée dans les 48 heures après la coupe, les manufactures sont interdites dans la colonie pour protéger celles du Portugal. Émeutes et révoltes se succèdent. En 1789, par exemple, est réprimée la tentative de révolte de l'inconfidence minière à Ouro Preto, dont le plus connu des conjurés est un sous-lieutenant qui a comme surnom Tiradentes, eu égard à ses talents de dentiste. Dans le nord-est, une réglementation visant à éviter les famines réservait une partie des surfaces agricoles aux cultures vivrières. Le boom du sucre pousse les propriétaires terriens autour de Bahia à réclamer que toutes les terres soient plantées en canne à sucre. Ils obtiennent gain de cause, entraînant l'envolée du prix du manioc et un mécontentement populaire. De là naît à Bahia, en 1798, une conspiration d'agriculteurs sans terre, d'anciens soldats, d'artisans mulâtres et noirs et d'esclaves autour des idées nouvelles de démocratie et de république pour, disent-ils, jouir de l'égalité et de l'abondance. Cette révolte est réprimée avant d'avoir pu agir. Dans la première partie du XIXe siècle, les colonies américaines d'Espagne sont secouées par des mouvements insurrectionnels canalisés par les grands propriétaires terriens et qui aboutissent à leur indépendance. Le Brésil, lui, suit une voie un peu différente, déterminée par le conflit européen entre la France et la Grande-Bretagne. En 1808, les troupes de Napoléon envahissent la péninsule ibérique et occupent Lisbonne. La famille royale portugaise et la cour fuient vers le Brésil, C'est en fait la marine britannique qui ordonne ce transfert et convoie 10 à 15 000 personnes, l'ossature de l'appareil d'État portugais, vers de l'autre côté de l'Atlantique, vers le Brésil. La Grande-Bretagne, qui domine le Portugal, obtient le droit de commercer directement avec le Brésil. Depuis 3 siècles, c'est la première fois qu'un souverain européen se rend dans le Nouveau Monde. Le régent et futur roi Juan VI se fixe à Rio, ville de 60 000 habitants. Les manufactures sont alors autorisées au Brésil, qui compte 3 millions d'habitants, autant que le Portugal, mais pour moitié des esclaves. Avec le débarquement de la monarchie portugaise, commence l'ère moderne au Brésil. C'est l'époque des premières imprimeries, des journaux, des premières universités. La colonie se développe, contrairement au Portugal, dont la décadence s'accélère, même une fois libérée des troupes françaises, car les filatures portugaises sont incapables de soutenir la compétition avec celle de Manchester en pleine révolution industrielle. João VI finit par rentrer au Portugal en 1821, quand son pouvoir absolu y est menacé par un soulèvement libéral. Et cela met le feu aux poudres à Rio, qui craint de perdre son statut de capitale du royaume. Dans cette ville, dont 6% des habitants possèdent à eux seuls 60% des richesses, les privilégiés veulent s'émanciper du Portugal. La rupture entre la métropole et sa colonie est consommée quand le fils du roi resté à Rio déclare l'indépendance en 1822 et prend le titre de Pedro Ier, empereur du Brésil. Les troupes brésiliennes enchâssent les derniers soldats portugais au bout d'un an. En échange de la reconnaissance de son indépendance et d'un traité de paix avec le Portugal, le Brésil doit verser à son ancienne métropole une indemnité de 2 millions de livres sterling qui sont empruntés au banquier Rothschild. C'est le début de la dette publique. La Grande-Bretagne mène en sous-main sa propre guerre au Brésil, dont elle voudrait morceler le territoire, jugeant que son influence s'exercera plus facilement sur plusieurs petits États que sur un grand. C'est d'ailleurs ainsi qu'à la même époque, elle contribue à émietter les colonies espagnoles d'Amérique qui prennent leur indépendance. Dans cette lutte, le Brésil perd l'Uruguay au sud, mais conserve l'Amazonie au nord. Le fait que le pouvoir soit incarné par un souverain dont l'autorité n'est pas fondamentalement remise en cause contribue à maintenir l'unité du Brésil, qui devient le géant de l'Amérique du Sud, en bonne partie grâce au fait que l'État monarchique portugais y a fait souche. Pedro Ier dissout par la force la première assemblée et met les députés opposants en prison. Mais il ne résiste pas à la vague de contestation initiée en France par la révolution de juillet 1830. Un an plus tard, en avril 1831, l'empereur abdique en faveur de son fils âgé de 5 ans et retourne au Portugal pour y briguer la couronne portugaise. Loin de mettre fin à l'agitation, la régence pendant la minorité de l'enfant empereur précipite les mécontentements, et ils sont multiples. Le Nord-Est est tout d'abord secoué par une révolte populaire menée par des notables et des curés réactionnaires voulant freiner l'évolution du Brésil vers un libéralisme bourgeois. De 1832 à 1835, ils entraînent des Indiens, des Métis, des pauvres, par milliers, pour réclamer le retour de l'ancien empereur. Sa mort au Portugal et une répression féroce coûtant la vie à 15 000 personnes sonnent le glas de cette révolte. Le pays est alors agité par un autre camp, celui de la petite bourgeoisie déçue de ce qu'elle appelle la Révolution d'avril 1831 et de ses promesses de démocratie. Sur la côte nord, à Belém, dans l'estuaire de l'Amazone, en 1835, une émeute aboutit à la mort des gouverneurs civils et militaires. Des petits paysans, des soldats, des Indiens, des Métis forment la base d'un pouvoir qui se déclare indépendant de Rio, mais s'effondre l'année suivante. En 1837, une tentative similaire secoue Salvador de Bahia, sur la côte, à 1600 km au nord de Rio. Pendant 4 mois, médecins, avocats, militaires forment un pouvoir appuyé sur les classes populaires. La répression fait de nombreux morts et remplit les prisons. Entre 1838 et 1842, une vaste zone du Nord-Est est le théâtre d'une révolte de paysans, de vachers, d'indiens et d'habitants des quilombos, menée par des intellectuels. L'égalité des droits pour les hommes dits de couleur y est revendiquée. La répression fait 15 000 morts. Des révoltes d'esclaves ont lieu également. Un dimanche de 1835, un demi-millier d'esclaves déferlent dans les rues de Salvador, prises d'assaut. La législation répressive est renforcée. Cela n'empêche pas 200 esclaves d'une plantation proche de Rio de se soulever en 1838 et de résister pendant 5 jours à la milice locale et à l'armée. Les dirigeants brésiliens se dépêchent de proclamer l'empereur Pedro II majeur à l'âge de 16 ans et le couronnent en 1841 pour établir une certaine stabilité politique. Toutefois, la question de l'esclavage reste entière, car l'économie est dominée par les plantations, les fazendas, et le pouvoir par leurs propriétaires, les fazenderos. Le sucre brésilien marquant le pas, l'esclavage régresse dans le nord-est. Par contre, les fazenderos de la région de Rio et de São Paulo, au sud, ont un grand besoin d'esclaves depuis que la culture de café s'y épanouit. Le plus gros fazendero en possède 6 000 qui travaillent sur sa trentaine de fazendas. La traite négrière est interdite sur le papier depuis 1831, mais 400 000 nouveaux esclaves africains sont tout de même jetés dans les plantations de café de 1840 à 1850. La politique de l'État brésilien est dictée par la lutte d'influence entre deux classes sociales, les fazenderos qui veulent conserver leurs esclaves et se satisfont d'une économie agraire entièrement tournée vers les besoins de l'Europe, et la bourgeoisie qui commence à se développer et dont les promesses de richesse passe par un marché intérieur dont les besoins seraient satisfaits par une industrie nationale employant des salariés. Les révoltes d'esclaves et la montée de l'abolitionnisme militant inquiètent le régime impérial. À partir de 1850, l'empereur du Brésil s'oriente vers la fin de l'esclavage. Il y est aussi poussé par la Grande-Bretagne, dont la marine hégémonique fait la chasse aux navires négriers dans l'océan Atlantique. Mais il ne le fait que pas à pas. Les intérêts des fazenderos sont ménagés. La fin de la déportation d'Africains vers le Brésil, alors que l'esclavage n'est pas aboli, a d'ailleurs pour conséquence de faire monter les prix des esclaves, ce qui arrange une partie de leurs propriétaires. En parallèle, une immigration allemande et italienne, blanche et catholique, est favorisée, répondant aux vœux des bourgeois racistes qui veulent mettre fin à l'esclavage. En 1865, pour mener une guerre sanglante contre le Paraguay et encourager les volontaires, l'empereur promet d'affranchir les esclaves qui s'engagent dans l'armée. En 1871, voulant moderniser le pays, il promulgue, 50 ans après les pays issus de l'Amérique espagnole, la loi dite du ventre libre, par laquelle tout enfant naît libre, même si sa mère est esclave. Les maîtres gardent toutefois le droit d'utiliser le travail des enfants jusqu'à leurs 21 ans. En 1884, la vente d'esclaves entre provinces brésiliennes est interdite. L'année suivante, la loi dite des sexagénaires affranchit les captifs de plus de 60 ans. Les quilombos, ces refuges d'esclaves en fuite, se multiplient à nouveau. Ils affrontent parfois victorieusement les milices au service des fazenderos. Des officiers de l'armée refusent d'endosser le rôle de chasseurs d'esclaves en fuite. Et finalement, en 1888, dernier pays de tout le continent américain, le Brésil abolit l'esclavage. Les 700 000 esclaves que compte encore le pays sont libres. L'année suivante, l'Empire, qui avait gouverné comme un régime bourgeois tout en étant très soucieux des intérêts des propriétaires terriens, est renversé sans résistance par un coup d'État associant militaires et partis politiques républicains. Pedro II se réfugie en France. L'Empire avait commencé sous le signe d'un libéralisme politique assez populaire. 2/3 de siècle plus tard, il finit comme un régime où moins de 1% de la population a le droit de vote pour élire de toute façon des assemblées qui ont peu de pouvoir. À l'Empire des fazenderos succède la République des fazenderos. Cette République ne représente que les couches privilégiées du pays. Les élections sont truquées et jamais plus de 2 ou 3% de la population y participe. Le pouvoir gouvernemental est assis sur les structures de l'État fédéral, mais il est très dépendant des rapports de force entre États qui reflètent les intérêts parfois divergents des exportateurs de différentes matières premières agricoles. Les partis politiques qui se disputent les places et le pouvoir local sont des émanations directes de cliques de possédants. Aucun parti n'existe à l'échelle nationale où les combinaisons font et défont le gouvernement basé à Rio. C'est le règne de la corruption, bien avant les scandales actuels. La production de café marque le Brésil durant une centaine d'années. En 1822, le pays exporte 186 000 sacs de café. En 1889, à l'avènement de la République, il en exporte 5,5 millions. et jusqu'à 17,8 millions en 1931, représentant plus de 70% des exportations du pays. Le développement économique du Brésil est subordonné à cette économie agraire tournée vers l'exportation. Les 7000 premiers kilomètres de voies ferrées sont construits dans le sud, suivant l'extension de la zone caféière depuis l'arrière-pays de Rio à celui de São Paulo. Les fazendas sont très étendues en surface, mais ont un bas niveau technologique, exploitant une main-d'œuvre nombreuse, esclaves d'abord, puis libres, mais en fait tout autant soumises aux fazendeiros. Ces propriétaires sont aussi appelés colonels, par référence au commandement qu'ils exerçaient dans la garde nationale de l'époque coloniale. Au début du XXe siècle, malgré la fin de l'esclavage, ils règnent toujours en potentat sur leurs propriétés grâce à leurs milices de tueurs qui imposent leur ordre féroce dans les campagnes. Le café au sud du pays attire des paysans misérables du nord-est, touchés par des sécheresses à répétition. Des immigrés européens, jusqu'à 100 000 par an, viennent au Brésil et sont aussi recrutés par les fazendeiros. L'exploitation y est si féroce, les conditions de travail et de vie si dures, que nombre d'Européens en repartent. Ceux qui quittent les campagnes pour les villes brésiliennes y rejoignent les rangs du prolétariat naissant et y apportent les idées modernes. Les Italiens, en particulier, introduisent le syndicalisme et l'anarchisme à Rio et São Paulo. La seconde moitié du XIXe siècle voit aussi les plantations de caoutchouc jouer un rôle important dans la colonisation de l'Amazonie. Les Indiens avaient montré aux colons les propriétés de cette sève caoutchouteuse et leur avaient appris comment saigner les EVA sans les tuer. En échange, ils sont forcés de récolter le caoutchouc à coups de fouet. Quand les Indiens épuisés meurent ou s'enfuient en s'enfonçant plus profondément dans l'immensité de la forêt amazonienne, les propriétaires font venir des ouvriers agricoles, les seringueiros, par dizaines de milliers. Les plantations d'EVA étant isolées en forêt, les seringueiros n'ont pas d'autre choix pour se nourrir que de dépenser leur paye au magasin du propriétaire, qui leur vend tout à prix d'or et les enchaîne à la plantation par les dettes. À partir de 1912, de grandes plantations d'EVA sont développées dans la colonie britannique de Malaisie et le caoutchouc brésilien périclite alors. Le cacao joue aussi un rôle assez important dans le Nord-Est, mais il est concurrencé par d'autres zones de production en Amérique et en Afrique. Dès 1890, les deux premiers présidents de la République brésilienne, désignés par le Parlement et issus de la caste des officiers qui avaient renversé l'empereur pour moderniser le pays, introduisent des tarifs douaniers protectionnistes, sauf pour les machines-outils. Tarifs destinés à limiter les importations de marchandises britanniques et à favoriser le développement de l'industrie. En 5 ans, 425 fabriques sont créées, dont certaines sont à la base de futurs empires industriels. Mais cela se fait dans l'anarchie propre à l'économie bourgeoise, accompagnée d'une spéculation où de nombreux affairistes créent des sociétés par action, fictives mais destinées à récolter des fonds, avant que le tout ne s'effondre dans une panique financière. La croissance industrielle est en partie factice. Même patronnée par l'État, la jeune bourgeoisie brésilienne est trop faible pour être le moteur de l'industrialisation. Seul le sud du pays, avec Rio, et surtout la montée en puissance de São Paulo, témoigne d'un certain dynamisme économique. C'est là qu'afflue le gros de l'immigration européenne, qui atteint un pic autour de 1900, ainsi que celle venant du Japon à partir de 1908. En 30 ans, la population de São Paulo est presque multipliée par 10, atteignant 600 000 habitants dans les années 1920. Le développement industriel y est centré et regroupe alors presque un tiers des fabriques et des ouvriers du Brésil. Mais cette industrie est presque uniquement tournée vers la production des biens de consommation textiles et agroalimentaires. La grande industrie est absente. La bourgeoisie et ses représentants critiquent le peu d'empressement que met l'État à soutenir le développement industriel. Ils déplorent la dépendance du pays vis-à-vis de l'étranger, et en particulier que l'État soit au service des fortunes bâties sur le café, et s'endette pour en soutenir le cours à chaque crise économique mondiale, entraînant une baisse de la demande. L'État dépense alors sans compter pour stocker les sacs de café et ainsi retirer la surproduction du marché. La capitale Rio est modernisée. C'est le Paris d'Haussmann qui est le modèle. Le petit peuple est expulsé des quartiers centraux. Les pauvres reconstruisent leurs habitations plus loin, sur les collines, formant l'embryon des futures favelas. Cette modernisation brutale provoque une révolte en 1904 à Rio, où des barricades sont dressées. La répression fait 30 morts, des milliers d'arrestations et des centaines de déportations dans les confins amazoniens. L'État veut aussi moderniser les campagnes du Nord-Est de façon tout aussi brutale que dans les villes du Sud. La construction de lignes de chemin de fer et l'installation de scieries industrielles chassent bien des paysans des terres qu'ils occupent sans titre de propriété. Ces déshérités se regroupent dans des communautés dont certaines sont fondées par des prédicateurs en rupture avec l'Église catholique. L'État réagit très brutalement à ces communautés qui vivent en marge de la société marchande et de ses nombreuses injustices. Par leur seule existence, elles peuvent constituer un espoir pour les pauvres. L'armée brésilienne monte ainsi 4 expéditions avant de venir à bout en 1897 de l'agglomération de Canudos. C'est un véritable massacre avec 15 000 morts. En 1914 et 1915, alors que le phénomène renaît non pas sous la forme d'une ville, mais de multiples fazendas occupées illégalement, l'armée utilise cette fois l'aviation, massacre encore des milliers de gens pour démanteler ces communautés. Des anarcho-syndicalistes, dont les idées ont été importées par les immigrants italiens et espagnols, fondent la Confédération ouvrière brésilienne en 1906 à São Paulo, à une époque où les grèves du 1er mai pour la journée de 8 heures prennent de l'ampleur. En 1917, une grève générale touche São Paulo. Pendant un mois, des barricades, des fusillades ponctuent la vie de la métropole. Finalement, les patrons cèdent aux ouvriers sur une augmentation de salaire de 20% et le gouvernement promet des réformes sociales limitant la surexploitation des femmes et des enfants. Ces promesses ne seront pas tenues. Des militants syndicaux forment le Parti communiste en 1922, premier parti brésilien existant à l'échelle nationale. Mais il est immédiatement interdit par le pouvoir. De jeunes officiers rêvent de liberté démocratique et d'un État moderne. Ces lieutenants sont révoltés par la corruption et le clientélisme du système politique, où les jeux d'équilibre entre politiciens de différents États ont peu à voir avec des élections honnêtes. Ils représentent les aspirations d'une petite bourgeoisie qui ne peut pas prospérer dans la République des fazendeiros. Secoué par la crise économique qui suit la Première Guerre mondiale, le Brésil est le théâtre d'une première mutinerie en 1922 et de plusieurs autres en 1924. Ne rencontrant pas le soutien de la population urbaine pour renverser le président, les survivants des mutineries s'échappent vers l'intérieur du pays, poursuivis par les troupes fidèles au régime. Dirigés par le capitaine Luis Carlos Prestes, ils parcourent en 3 ans 25 000 km, sillonnant 13 États brésiliens. Mais ne rencontrant pas non plus le soutien de la paysannerie, les 750 survivants des 1500 soldats et officiers qui ont entrepris cette longue marche passent en Bolivie en 1927. En exil, Prestes défend la réforme agraire, la gratuité de l'enseignement, le droit de vote aux analphabètes, la lutte contre la corruption. Au début des années 1930, le Parti communiste l'intègre à sa direction déjà stalinisée, et cela malgré l'opposition de militants qui ne veulent pas d'une fusion avec le courant petit bourgeois des officiers révoltés. La crise de 1929, venue des États-Unis, bouleverse le Brésil. Le marché du café s'effondre. Sa surproduction est telle que l'État ne peut en venir à bout en le stockant. Les sacs de café prêts à l'exportation sont brûlés, jetés à la mer ou utilisés comme combustible dans les chaudières des locomotives. L'équivalent de 3 années de production de café est détruit entre 1931 et 1944. Les fabriques ferment aussi. La crise est terrible. Le jeu politique traditionnel, basé sur un corps électoral ne dépassant pas 6% des 30 millions d'habitants du pays, est bouleversé. Et c'est un propriétaire terrien, homme politique qui a commencé sa carrière au sein de la République corrompue, Getúlio Vargas, qui va en redéfinir les règles. Vargas est un gouverneur d'État quand il est battu à l'élection présidentielle de 1930. Ambitieux, il n'accepte pas sa défaite et forge une coalition pour s'emparer tout de même du pouvoir. Il marche sur Rio à la tête de troupes et s'impose avant l'intronisation de son rival. Au cours de ce qu'il appelle une révolution, mais qui est plutôt un coup d'État militaire exécuté avec l'assentiment de larges couches de la population. Le petit peuple, sans participer à cette prise du pouvoir, y est plutôt favorable, espérant un changement. La petite bourgeoisie et les officiers subalternes y voient une possibilité d'ascension sociale bloquée par le monopole des fazendeiros, les propriétaires terriens sur le pouvoir. Et la bourgeoisie industrielle espère que l'État se mettra à son service plutôt que de favoriser des exportations agricoles de toute façon bloquées par la crise. En 1932, les fazendeiros de l'État de São Paulo organisent un soulèvement pour écarter Vargas du pouvoir. Ils les écrasent en s'appuyant sur l'armée. Les combats durent 3 mois. Mais Vargas ne veut pas que les militaires occupent le pouvoir. Il veut contrebalancer leur influence en s'appuyant sur la force sociale montante de la classe ouvrière, à condition qu'il puisse la contrôler. Pour gagner son appui, il prend des mesures sociales. Journée de travail de 8 heures dans le commerce et l'industrie, interdiction du travail des enfants de moins de 14 ans ou du travail de nuit. Vargas commence ses discours par « travailleurs du Brésil » et dit « j'irai au pouvoir pour que les pauvres soient moins pauvres et les riches moins riches ». Sa propagande le présente comme le père des pauvres. Mais il interdit les grèves. Vargas favorise la syndicalisation, mais impose des syndicats uniques par branche économique et oblige les travailleurs à les financer par un impôt syndical. Et surtout, Vargas encourage la création d'appareils syndicaux pour contrôler la classe ouvrière et les fait encadrer par l'État. Dans ces conditions, il leur délègue la gestion d'une partie des œuvres sociales, hôpitaux, enseignements techniques, colonies de vacances. Son modèle est corporatiste, inspiré du régime de Mussolini. Le pouvoir de Vargas est autoritaire, bien souvent dictatorial, mais il souhaite le faire approuver par les élections. Il instaure le vote secret et accorde le droit de vote aux femmes. Par contre, il en exclut les analphabètes, très nombreux dans les campagnes, tournant clairement le dos aux paysans pauvres, laissés à la dictature des grands propriétaires terriens. Sous Vargas, les ouvriers agricoles ne bénéficient d'aucune des réformes sociales qui donnent quelques droits aux ouvriers des villes, les travailleurs du secteur informel non plus. Pour se maintenir à la tête de l'État, Vargas doit naviguer entre des forces sociales et politiques contradictoires. Le Brésil des années 1930 voit se développer un véritable mouvement fasciste, l'intégralisme, regroupant un demi-million de militants et possédant sa milice composée de dizaines de milliers de chemises vertes. En face, un mouvement antifasciste dispute la rue aux intégralistes. Il prend le nom d'Alliance nationale libératrice, dont le président est Prestes, rentré clandestinement au Brésil après un séjour dans l'URSS de la bureaucratie soviétique à l'invitation d'une Cominterne stalinien. L'ex-capitaine Prestes dit « défendre la liberté et l'émancipation nationale et sociale du Brésil ». Le Parti communiste, qui prône l'union des classes sociales plutôt que la lutte de la classe ouvrière contre la bourgeoisie, n'est pas officiellement dans cette alliance pour ne pas effrayer la petite bourgeoisie progressiste qu'il courtise. En 1935, l'alliance inspire des mutineries dans l'armée, basées bien plus sur des officiers progressistes que sur des soldats du rang. C'est un échec. Vargas et le haut commandement déclenchent une dure répression contre l'alliance. Les généraux se débarrassent des officiers progressistes qui contestent leur autorité et Vargas se débarrasse de la gauche brésilienne. Prestes est arrêté en 1936. Des militants communistes allemands ayant fui le nazisme en se réfugiant au Brésil sont expulsés et livrés à la Gestapo. C'est le sort de la compagne de Prestes. S'appuyant sur l'extrême droite intégraliste, Vargas renforce son pouvoir par un coup d'État en 1937, suspend la Constitution et les partis et instaure le régime de l'Estado Novo, l'État nouveau. Vargas utilise l'antisémitisme, dénonçant à la radio un plan Cohen de destruction du Brésil avec l'appui des communistes, pure invention des intégralistes. La politique de Vargas est centraliste et accroît le pouvoir fédéral au détriment des États, empêchant leur jeu de pouvoir habituel. Si la dictature de Vargas prive les différents groupes de classes privilégiées de leur pouvoir politique direct, elles préservent leurs intérêts fondamentaux et de long terme. La concentration du pouvoir entre ses mains, la stabilisation de son régime à la fin des années 30, permet à Vargas de poser les bases d'une transformation du Brésil par en haut. Il veut développer l'industrie nationale et utilise les moyens de l'État pour pallier les faiblesses d'une bourgeoisie brésilienne qui vit dans l'ombre de l'impérialisme britannique et de plus en plus américain. À la fin des années 1930, le nationalisme de l'Estado Novo vise à émanciper des influences étrangères, à émanciper le pays des influences étrangères, en profitant de l'équilibre mondial des forces entre une Grande-Bretagne sur le déclin et une Allemagne à l'offensive, alors que les États-Unis se tiennent encore à l'écart de ce qui va être la Deuxième Guerre mondiale. Ces facteurs internationaux et l'appui d'un mouvement ouvrier montant en puissance mais domestiqué permettent à la même époque au général Lázaro Cárdenas au Mexique et au colonel Juan Perón en Argentine de mener une politique similaire d'indépendance nationale. Elle vise à protéger leur faible bourgeoisie de la concurrence nord-américaine et à développer l'industrie nationale. Et cela, même si leur bourgeoisie ne les soutient pas toujours et aspire traditionnellement à des gouvernements oligarchiques à la botte de l'impérialisme. Au Brésil, des compagnies nationales sont fondées pour construire des barrages hydroélectriques ou exploiter des minerais. En 1940, les compagnies étrangères sont exclues du secteur minier. Par contre, la compagnie minière étatique Vale do Rio Doce est fondée en 1942. C'est aujourd'hui une multinationale, la Vale. L'État construit de toutes pièces une industrie sidérurgique. En 1946, est coulé le premier acier brésilien. Si le Brésil reste un exportateur agricole, la part de l'industrie dans le produit intérieur brut, le PIB, double en 20 ans, alors que celle du café dans les exportations est divisée par deux. Des travailleurs agricoles émigrent des campagnes vers les villes pour rejoindre le prolétariat urbain, fuyant la misère en s'embauchant dans l'industrie en développement. La modernisation du Brésil passe aussi par le développement des universités, attirant des intellectuels d'Europe, comme l'ethnologue Claude Lévi-Strauss et l'historien Fernand Braudel. Le Corbusier vient former des architectes brésiliens. La Deuxième Guerre mondiale coupe le Brésil de toute relation économique avec l'impérialisme allemand et accroît la pression des États-Unis. En 1942, le Brésil de Vargas s'aligne sur l'impérialisme américain, déclare la guerre à l'Allemagne et participe à la campagne d'Italie. Sur le plan intérieur, la politique de Vargas d'équilibre entre les forces sociales opposées trouve ses limites à partir de 1943 avec le renouveau des manifestations politiques. Les coteries à la tête des États, liées aux possédants, s'agitent à nouveau pour peser sur le pouvoir. Et la petite bourgeoisie de gauche ressent aussi de plus en plus mal l'absence des libertés démocratiques et d'élections. Un congrès d'écrivains, communistes et démocrates se réunit en 1945. Jorge Amado, qui a notamment décrit l'oppression des ouvriers agricoles du cacao, en fait partie. Pour rester au pouvoir, Vargas met en avant sa politique sociale pour cultiver son image d'ami des pauvres. Il autorise le Parti communiste et libère Prestes qui, par rancunier, lui apporte son soutien au sortir de 10 années passées dans ces geôles. Cette politique alarme les États-Unis, qui poussent l'état-major brésilien à préparer un coup d'État. En octobre 1945, Vargas est renversé sans résistance, bien que des manifestations de rue acclament son nom. Son ancien ministre de la guerre, un général, remporte les élections de 1946 et mène la politique traditionnelle des classes privilégiées, liberté entière est donnée aux riches, et l'État cesse de consacrer des capitaux à l'industrialisation. En 1947, la guerre froide commence et le Brésil s'aligne complètement sur les États-Unis. Les entreprises américaines fondent sur le pays. Le Parti communiste, qui compte 200 000 militants, est à nouveau interdit. Ses parlementaires perdent leur mandat. Le mécontentement qu'engendre cette politique offre à Vargas l'occasion d'une campagne électorale victorieuse en 1950. Il revient au pouvoir en s'appuyant sur la gauche. Le Parti communiste le soutient, comme il soutiendra ses successeurs, au nom d'une alliance avec la bourgeoisie nationale contre l'impérialisme et d'un improbable passage pacifique au socialisme. Vargas reprend sa politique d'étatisme industrialisateur. L'entreprise nationale Petrobras est fondée en 1953 pour exploiter les richesses pétrolières. La part des profits que les entreprises américaines peuvent rapatrier hors du Brésil est limitée à 10% pour les forcer à réinvestir sur place. Sans remettre en cause l'alliance du Brésil avec les États-Unis, Vargas s'abstient d'envoyer des troupes prendre part à la guerre de Corée. Agacés, les États-Unis appuient en sous-main les forces réactionnaires. Les généraux brésiliens recommencent à comploter contre Vargas. La pression est telle que son ami, le ministre du Travail, João Goulart, riche propriétaire mais qui symbolise la phase de la politique de Vargas tournée vers les classes populaires, est obligé de démissionner début 1954. Alors que l'inflation grignote les salaires ouvriers, de grandes grèves secouent le pays. 300 000 travailleurs prennent part à une grève générale à São Paulo en mars 1954 et 100 000 dockers en juin. Vargas en profite pour s'appuyer sur les bureaucraties syndicales qui encadrent la mobilisation ouvrière, et le 1er mai, il double le salaire minimum. Le bras de fer entre l'état-major, soutenu par les classes possédantes et l'impérialisme américain, et Vargas, s'appuyant sur les syndicats qu'il contrôle, dure des mois. Mais quand son propre ministre de la guerre veut le renverser en août 1954, Vargas, plutôt que de mobiliser les travailleurs pour résister au coup d'État en gestation, préfère se suicider. Ce geste, qui le fait passer pour un martyr, déclenche des émeutes contre l'ambassade et les entreprises américaines, ainsi que les journaux qui ont attaqué Vargas. Le lendemain de son suicide, des centaines de milliers de personnes suivent ses funérailles à Rio. L'opposition réactionnaire est surprise par cette issue imprévue à la crise. Grâce à la popularité de Vargas, les deux élections suivantes portent au pouvoir des présidents qui se situent dans sa ligne avec des nuances. C'est l'époque de la création d'une nouvelle capitale, Brasilia, conçue par l'architecte communiste Oscar Niemeyer. L'idée de déplacer le district fédéral loin de la côte pour favoriser l'interconnexion entre les régions de cet immense pays, grand comme qu'en soit la France, n'est pas nouvelle. La Constitution de 1891 le prévoyait déjà. Mais la mise en œuvre de ce projet en 1956 et surtout sa réalisation en 5 ans seulement, alors qu'au départ le site n'est accessible qu'en avion, sont à mettre au crédit d'un gouvernement qui n'attend pas l'initiative des capitalistes. De même pour la construction des 15 000 km de route reliant Brasilia aux grandes villes. Toutefois, les ouvriers qui ont assuré le succès de l'entreprise et bâti Brasilia en un temps record n'ont pas eu leur place au cœur de la nouvelle capitale inaugurée en 1960. Cette ville voulue par l'État, et qui compte aujourd'hui 2,5 millions d'habitants, va vite perdre son caractère planifié et s'entourer en désordre de quartiers populaires comme toutes les autres métropoles qui se développent au sein d'une économie marquée par la concurrence, l'individualisme et l'anarchie. L'industrialisation, voulue par l'État dans un cadre capitaliste avec l'implantation de multinationales, ne développe pas le pays harmonieusement. C'est à la fin des années 1950 que Ford, General Motors et Volkswagen s'installent dans la périphérie de São Paulo, y concentrant encore plus la classe ouvrière brésilienne et accroissant les déséquilibres du pays. Autour de São Paulo et de Rio, le Sud concentre 83% de la production industrielle brésilienne. L'impérialisme américain ne fait pas de cadeau au Brésil. Le FMI lui refuse un prêt en 1960. Voulant marquer l'indépendance nationale du Brésil, s'inspirant en la matière de la politique de De Gaulle, le président Quadros envoie des missions commerciales en URSS et en Chine maoïste. Il décore Che Guevara juste après la victoire des troupes cubaines sur celles armées par les États-Unis dans la baie des Cochons. La période est marquée par l'éveil syndical des paysans du Nord-Est, dans la foulée du soulèvement rural qui a constitué le fond de la révolution cubaine. Des ligues paysannes et des syndicats se forment. Leur revendication principale est une réforme agraire par la loi ou par la force, disent-elles. Les fazendeiros du Nord-Est commencent à s'inquiéter véritablement quand leurs politiciens perdent les élections à Pernambouc au profit de la gauche. D'autant plus que Goulart, arrivé au pouvoir en 1961 et qui se veut l'héritier direct de Getúlio Vargas, veut donner le droit de vote aux analphabètes. Pour contrôler cette poussée des masses, une partie de la hiérarchie de l'Église catholique, cardinaux en tête, commence à parler de réforme sociale et met sur pied des syndicats catholiques. C'est le début de la théologie de la libération. Mais pendant que la partie progressiste de l'Église tâche d'endiguer la prise de conscience des masses paysannes, une autre partie mobilise les couches les plus réactionnaires contre le gouvernement en organisant de grandes marches de la famille avec Dieu pour la liberté. La politique d'union nationale et d'équilibre entre les classes sociales de Goulart est de plus en plus difficile. Il prépare une loi de réforme agraire, mais qu'il veut faire passer en s'appuyant sur l'ensemble des forces politiques, dont pourtant une grande partie sont en fait les instruments des 1% de propriétaires qui possèdent la moitié des terres. La bourgeoisie brésilienne, que Goulart voudrait convaincre d'accorder des miettes aux travailleurs pour préserver l'ensemble de ses privilèges, ne le soutient pas. D'autant moins que Goulart s'oriente vers une révision de la Constitution qui accroîtrait ses pouvoirs et, accessoirement, une légalisation du Parti communiste. Les capitalistes étrangers commencent à retirer leurs investissements, plongeant l'économie brésilienne dans une crise qui se traduit par une poussée d'inflation. On voit les limites du protectionnisme, destiné à favoriser le décollage de l'industrie nationale en substituant la production locale aux importations de produits industriels, notamment nord-américains. La volonté de l'État ne peut pas effacer des siècles d'économies agraires tournées vers les besoins des pays développés. Les prix industriels sont trop élevés. L'industrie brésilienne ne tourne qu'à moitié de ses capacités au début des années 1960. Du côté des ouvriers, l'heure est à la mobilisation. 31 grèves en 1958, 172 en 1963. Ces mouvements sont contrôlés par les appareils syndicaux et politiques, comme celui du Parti communiste, dont le but principal est de soutenir Goulart. Il n'existe pas de parti proposant au prolétariat brésilien une politique indépendante. Le rétablissement des relations diplomatiques du Brésil avec l'URSS est le déclencheur d'une action clandestine et systématique des États-Unis pour soutenir toutes les forces qui veulent renverser Goulart. Les sommets de l'armée commencent à parler de rétablir l'ordre, inquiets qu'ils sont de l'agitation sociale qui touche aussi la base de l'armée. En septembre 1963, des centaines de sous-officiers manifestent à Brasilia pour le droit de se syndiquer. Une manifestation ouvrière de soutien à Goulart a lieu en mars 1964 à Rio, où 200 000 personnes se rassemblent sous les drapeaux rouges devant le ministère de la Guerre. C'est l'occasion pour le président de signer en public deux décrets portant sur la nationalisation des raffineries de pétrole et sur l'expropriation des domaines de plus de 100 hectares. Quelques jours plus tard, les amiraux décident d'arrêter un étudiant d'extrême-gauche qui faisait son service militaire dans la marine et tâchait d'organiser un syndicat de conscrits. Un millier de matelots se rebellent et s'enferment au siège du syndicat des métallurgistes à Rio. Les 200 fusillés marins envoyés pour les déloger désobéissent à leurs officiers et se rallient aux mutins. Goulart demande à l'armée de ne pas tirer sur ce qu'il appelle ses gamins rebelles. Mais même quand son pouvoir est menacé par un coup d'État militaire, il est bien trop responsable devant la bourgeoisie et son appareil d'État pour inciter les soldats à la désobéissance et prendre le risque de fragiliser l'épine dorsale de l'État. Goulart ne veut absolument pas que l'agitation parmi les ouvriers, dans les campagnes ou dans l'armée, débouche sur une contestation de l'ordre social et de l'État. C'est alors qu'un général, ancien intégraliste, ordonne le 31 mars à ses troupes de marcher sur Rio. Des généraux promus par Goulart et qui approuvaient sa politique nationaliste se détournent de lui. En 24 heures, l'armée se rallie au putsch, en gestation depuis des mois. Les généraux, assurés du soutien des États-Unis, sont plus conséquents que Goulart et poussent l'affrontement jusqu'au dénouement. Les appareils syndicaux appellent à une grève générale de soutien à Goulart le 2 avril, mais pas plus que le Parti communiste, ils n'ont préparé les travailleurs à se méfier du corps des officiers. La mobilisation n'a pas lieu. Goulart est renversé sans combat. La petite bourgeoisie réactionnaire manifeste son soutien aux putschistes. La conférence épiscopale catholique remercie les militaires de délivrer le pays du péril communiste. À partir de 1964, la dictature s'abat sur le Brésil. Bien des politiciens sont démis de leur mandat. La chasse aux sorcières est lancée dans les rangs des partis de gauche, des universités, journaux, radios, entreprises publiques qui sont plus ou moins liées à l'ancien pouvoir. Mais la répression ne vise pas que les cadres du régime de Goulart. Les généraux ciblent avant tout les militants des mobilisations paysannes et ouvrières, des syndicats et des mouvements d'alphabétisation. Dès la première semaine du coup d'État, 10 000 personnes sont incarcérées, 40 000 autres les mois suivants. Dans le Nord-Est, les fazendeiros mènent la répression de concert avec les militaires contre les ligues paysannes, qui comptent alors 120 000 membres, rien que dans l'État de Pernambouc. La dictature au Brésil dure 21 ans, avec la succession de 5 généraux à sa tête. Elle s'inscrit dans une évolution politique de l'Amérique latine, où pendant les mêmes décennies sévissent des régimes militaires soutenus par les États-Unis. Ces dictatures se sont d'ailleurs entraidées pour pourchasser leurs opposants. C'est l'opération Condor. Au Brésil, les unités de policiers chargées de capturer les militants circulent en civil, dans des voitures banalisées, et agissent sous pseudonyme sans aucune forme légale. Les arrestations sont de véritables enlèvements. Les États-Unis et la CIA n'ont pas été les seuls à aider les forces de répression brésiliennes à organiser la terreur. un des tortionnaires les plus détestables de l'armée coloniale française, l'officier Osares, donne au centre d'entraînement des forces spéciales de Manaus des cours basés sur son expérience sanglante de tueur d'Algériens. Il est nommé attaché militaire au Brésil en 1973 et fait profiter de ses conseils en répression le général et le commissaire de police qui dirigent les escadrons de la mort brésiliens. La torture est employée dans 82 centres militaires. Les tortionnaires brésiliens bénéficient aujourd'hui d'une amnistie pour leurs crimes de l'époque, mais plus de 600 de leurs victimes ont été indemnisées, dont Dilma Rousseff, arrêtée en 1970 à l'âge de 23 ans. Les généraux au pouvoir alignent complètement le Brésil sur la politique extérieure américaine. Les relations diplomatiques sont rompues avec Cuba dès 1964, et l'année suivante, l'armée brésilienne envoie des troupes aux côtés des marines américains renverser un gouvernement populaire à Saint-Domingue, dans les Caraïbes. L'exportation des matières premières pèse toujours très lourd dans l'économie brésilienne. Alors que le café perd de son importance, le soja devient une culture majeure. Sous les généraux, le dirigisme est toujours de mise. Les tarifs industriels sont soumis au contrôle de l'État. L'inflation se tasse dès 1965, mais au passage, le pouvoir d'achat du salaire minimum est réduit de 20%. L'État investit lui-même des capitaux dans l'industrie. Il veut favoriser la concentration des richesses dans les mains de la bourgeoisie, dans l'espoir qu'elle investisse elle-même. La part de l'État dans le financement de la sidérurgie, du pétrole, de la pétrochimie, de l'industrie électrique, des mines, du logement, etc., passe de 48% en 1960 à 70% en 1974. L'entreprise aéronautique brésilienne publique Embraer est fondée en 1969. Cette politique d'industrialisation largement étatique a pu être qualifiée de « miracle brésilien ». Mais elle laisse, en 1974, 40 millions de personnes sous-alimentées sur une population d'un peu plus de 100 millions. Les ouvriers agricoles du Nord-Est sucrier gagnent deux fois moins qu'avant le coup d'État, alors qu'il leur faut ramasser 1500 kg de canne par jour en 1982, deux fois plus qu'avant 1964. Ils sont payés au rendement. De plus, le plan éthanol pour faire du carburant à base de canne à sucre au nom de l'indépendance énergétique du Brésil augmente l'accaparement des terres par les fazendeiros. Ces grands propriétaires récupèrent notamment les lopins qu'utilisaient leurs ouvriers agricoles pour faire pousser des légumes. Beaucoup d'ouvriers agricoles qui étaient employés toute l'année sur des plantations, y compris pendant la morte saison de la canne, deviennent des journaliers. Ils attendent chaque matin sur les places des villages qu'un contremaître les embauche, crevant de faim comme personne ne le fait. Dans les campagnes, la taille des individus diminue au fil des générations. Ceux qui le peuvent émigrent vers les villes industrielles, comme la famille de Lula, qui quitte le Nord-Est pour São Paulo dans les années 1950. De 70% en 1940, les districts ruraux ne comprennent plus que 30% de la population en 1980. C'est une nouvelle classe ouvrière qui se développe, sans tradition, mais qui va bientôt montrer sa combativité. Le bilan social de la dictature est catastrophique. En 1973, les salaires ouvriers réels sont de 39% de leur montant de 1959. 60% des salaires sont juste au niveau ou en dessous du minimum officiel. La mortalité infantile a augmenté. 30% des enfants ne vont pas à l'école, 70% dans les régions les plus pauvres. La moitié des municipalités n'ont pas de médecins, mais les chirurgiens esthétiques foisonnent pour satisfaire les caprices de la bourgeoisie. Dans un accès de lucidité, le général président Médici se laisse aller à dire la vérité. L'économie va bien, mais le peuple va mal. On s'arrête là pour l'instant.